5-4, la plage sauvage.
Une pluie diluvienne, l'impact direct d'El Niño sur les côtes commence à tomber. Au lieu de s'abriter, il court sur le sable. Dans l'eau chaude de l'océan Pacifique en furie, la passion atteint son paroxysme. Les vagues se brisent autour d'eux, alors que leur mouvement mime la houle tropicale. C'est le super El Niño, une fusion charnelle, intense, humide et totalement déchaînée.
Est-ce qu'il va y avoir un chapitre à chaque jour?
Je pourrais.
Les cotes d'écoute vont monter, là.
Écoute.
Comme le mercure.
Exact.
Alors, maintenant, on nous annonce un changement de masse d'air, là. On Bon. Trêve de plaisanterie. De retour avec un peu de sérieux maintenant.
Toujours. C'était très sérieux.
Oui, tout à fait. On a livré une nouvelle. C'était une nouvelle. Faut le dire.
On est même allé plus loin que ça.
T'as raison. C'est ça notre mandat. On a pris la nouvelle et on l'a amené plus loin
encore.
Exact.
On est allé. On va dire trop loin.
On est allé.
je fais comme ma petite puritaine, non.
On est allé jusqu'au bout. Au bout des choses. C'est ce qu'il faut dire. Est-ce que les filles, vous avez des amis Kevin autour de vous? Des membres de la famille ou des. Avez-vous des Kevin autour de vous?
Pas tant non plus.
Non? Des connaissances, d'anciens collègues de travail,
oui.
des...
On a déjà croisé des Kevin.
Absolument, là. Oui, ben ça se croise. C'est parce que je suis née à la fin des années 70, là, des Kevin. Dans une classe, il y en avait 6. Là.
OK, c'est ça, toi, t'as connu ça, les 6 Kevin et plus là, dans une classe. Parce que c'est de plus en plus rare, en fait. Puis ça, c'est pas nouveau, quand même, comme statistique. C'est juste que je suis tombé sur un article en fin de semaine qui démontre qu'encore une fois, 2024-2025, le prénom Kevin est de moins en moins populaire. L'année de paroxysme du prénom Kevin, d'après vous?
89.
Hey, 83?
93.
Hey, c'est quand même long.
93 avec 874 naissances. Pour quelle raison? Principalement Kevin Costner.
Ah oui.
Et
Kevin Parent.
Kevin McAllister.
Ah,
pas de Kevin Parent de nommer au Québec. Vraiment Kevin McAllister, qui évidemment personnage principal dans « Maman, j'ai raté l'avion », qui a été excessivement marquant pour cette génération-là et encore aujourd'hui, un des films de Noël les plus regardés. Kevin, exactement. Passe ça à Kevin,
quand
à l'époque.
Quand ils comptabilisent le nombre d'enfants qui s'appelaient Kevin, est-ce qu'ils l'écrivent de toutes les manières possibles?
Là, moi, j'ai K-E-V-I-N ici.
Fait que K-E-V-E-N, il n'y est pas.
K-E-V-E-N n'est pas là.
C'est plus répandu.
K-E, puis tu sais, il y a plein de façons de l'écrire.
K-E-Y-V-E-N, K-A-V-E-N. Il y en a vraiment...
C'est vrai, K-A-V-E-N.
Ouais.
Il y en a-tu avec Q aussi?
Non,
j'ai jamais vu ça.
Q-U-A-V-I-N.
Un peu, je cherchais.
Kevin. Ouais.
C'est sûr
non, mais c'est parce que, tu sais, il y a eu une période aussi, tournant des années 2000, où c'était ça la mode, là. Tu sais, moi, c'est Jessica, mais avec un Y. Il fallait absolument que les parents aient une petite twist. Ça a comme été la mode qui a suivi les prénoms composés
oui,
et les
vrai.
Deux noms de famille. Ou c'est ça. Faut,
puis remplacer toutes les I par des Y puis toutes les C par des K.
En plein ça. Tu sais, de changer ça, ça a été comme la mode suivante. Mais ce qu'on peut lire, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas seulement québécois non plus. Mondialement, des Kevin, il y en a de moins en moins. Ce qui n'a pas aidé, c'est à l'arrivée de la plateforme YouTube. Souvenez-vous, nous, on a vécu ça ici au Québec. Là.
Ah ouais, Kevin, si continue comme ça.
Ça, ça n'a pas aidé. Puis c'est prouvé que ça n'a pas aidé parce que depuis 2008, c'est en chute libre.
T'es-tu sérieux? Puis
oui.
Ça, c'est 2008?
C'est ce que j'ai, moi, ici, comme information. Là.
Vous vous souvenez? Une incidence directe.
Oui, Pierre Yvelin avait fait un documentaire sur les Kevin, justement. Donc, c'était intitulé Kevin. Puis on s'est posé la question. Je sais aussi que tu as fait des recherches par rapport à ça aujourd'hui, Antonine. Et effectivement, le prénom dans la vie... a une incidence. C'est important quand même aux yeux. Je le dis pas de la bonne façon. N'a pas nécessairement une incidence sur votre parcours de vie, mais les parents ont une perception lorsqu'ils donnent le prénom à l'enfant. C'est sûr qu'un Thomas ou un Édouard a plus de chances dans nos têtes à nous de parents de devenir neurochirurgien qu'un Kevin. Malheureusement, ouais. C'est une idée préconçue, mais c'est quand même une perception qu'on a.
Oui, mais c'est quand même basé sur une certaine réalité. En fait, les deux choses que tu as dites sont vraies. C'est que le prénom, c'est un marqueur social.
C'est ça.
Et c'est un marqueur économique aussi. Si tu t'appelles Kevin, tu as de 10 à 30 % moins de chances d'être embauché.
C'est quand même fou, ça, pareil. Hein?
Parce oui, qu'il y a un préjugé.
Ah ouais.
C'est comme si c'était un nom qui était moins associé à des hautes études, à certaines compétences, à une certaine classe sociale comme telle. Mais est-ce que vous connaissez le concept du facteur C ou le facteur de confusion? Vous avez sûrement déjà vu ça dans vos jeunes études, mais ça fait longtemps. C'est quand on fait un lien direct entre deux choses, mais qu'en fait, il y a un troisième facteur. Par exemple, facteur A, c'est on fait un lien entre votre nom et votre profession. Donc, là, ce serait l'élément B. Mais ce n'est pas à cause nécessairement de votre nom que vous n'allez pas devenir médecin. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Kevin que tu ne deviendras pas médecin. Mais c'est plutôt parce qu'il y a un autre facteur, donc la classe sociale à laquelle tu appartiens. Généralement, les prénoms anglophones sont plus populaires chez les classes plus populaires. Donc, moins éduqués, moins diplômés de l'université, va avoir une plus grande influence, notamment de la culture américaine. Ils vont avoir tendance à nommer des enfants du prénom de certaines vedettes qu'ils vont aimer, que ce soit des sportifs, des lutteurs, des acteurs, des chanteurs, etc. Ce qui est moins répandu dans les classes plus éduquées, où on va avoir tendance à se tourner vers des prénoms qui ont une consonance plus historique, qui ont été portés par des personnages qui, nous, ont frappé notre imaginaire là, dans notre classe sociale, dans notre culture, dans notre groupe d'amis.
Ça.
Donc, il y a une certaine influence. Puis, c'est particulièrement vrai au Québec, cette affaire-là, parce que c'est pas dans toutes les cultures où il y a autant un effet de mode dans les prénoms. Par exemple, dans la culture anglo-saxonne, on s'appelle souvent de la même chose que son père et son grand-père.
Oui, puis ça va avoir le premier, le deuxième, le troisième. Là.
Donc, ça fait moins des cohortes. Comme nous, au Québec, quelqu'un, tu entends son prénom, tu lis son prénom dans un courriel.
Tu sais son âge à peu près.
T'es capable de deviner son âge. Puis des fois, tu fais le saut, comme tu vois Antonine, tu penses qu'elle a 98 ans, mais non. Allô, j'ai 42.
C'est même affaire avec notre collègue Sylvie. Sylvie
ben oui.
Goulet aussi. Tu sais, Sylvie, elle a, je dirais pas son âge en nom.
Mais
faut
elle
pas
est
pas
plus jeune qu'une Sylvie.
Oui, t'sais. C'est ça. En plein ça. Puis c'était drôle parce que dans les dernières semaines qu'on a faites ensemble avec les retours, justement, pendant la saison régulière, le prénom féminin qui prend le plus sa retraite au Québec cette année, c'est des Sylvie.
Ah!
Fait qu'elle, elle est rendue là de dire, tu sais, écoutez, moi, mon prénom prend sa retraite cette année, mais moi, je suis pas prête à prendre ma retraite du tout. Fait qu'effectivement, tu sais, ce marqueur-là a vraiment une incidence.
T'avais Sylvie, Manon puis Joanne dans le top 3.
Qui était dans le top 3.
Ben, c'est ça, ben oui.
C'est vraiment là, en descente, depuis 2008, comme je le disais tout à l'heure, tu sais, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, c'est juste 8 bébés qui ont reçu le prénom Kevin au Québec, donc K-E-V-I-N. En 2025, on a remonté un petit peu. On est à 13. En comparaison quand même à 669 en 1996. Fait que, tu sais, je vous parlais de l'apogée en 93, mais même en 96, quelques années plus tard, ça continuait encore. C'est dans les années 80, vous aviez raison finalement, populaire à la fin des années 80, Kevin, K-E-V-E-N, a connu quand même un sommet, mais avec 341 naissances. C'est quand même pas énorme non plus.
Là, il y a plein de jeunes Sylvie qui nous écrivent. Là.
Bon, mais tu vois, mais des jeunes Sylvie, des Kevin ben oui. aussi qui nous écrivent. Tu sais, Kev, mon cousin. Moi, j'en ai un, Kevin, un ami autour de moi. C'est un des gars les plus intelligents que je connais. Kevin, c'est une tête, travaille en ressources humaines depuis des années. Qui est... Tu ris-tu de moi ou tu ris d'un texto?
Après, OK. Ouais.
Mais c'est ça, ce gars-là est excessivement brillant. Puis on a eu la conversation avec lui des fois de, tu sais, par rapport à ton prénom. Puis il fait juste, c'est les gars, tu sais.
C'est comme une intervention que vous y avez faite.
Ben, dans
Kevin,
le sens,
faut
dans
qu'on
fait,
parle de ton prénom.
De plus
on peut tu en rire.
Ben oui, c'est ça, tu sais, d'y poser la question. T'es-tu à l'aise avec ça? Puis de faire, écoute, tu sais, ce prénom-là, je ne l'ai pas choisi. À partir de là, moi, j'ai fait mon propre chemin dans la vie. C'est un gars qui réussit excessivement bien. Papa de deux magnifiques jeunes filles, est avec sa blonde depuis des années. Tout va comme sur des roulettes. Puis moi, j'aimerais ça étudier en ressources humaines un jour dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et Kevin fait partie des raisons pour lesquelles j'aimerais ça étudier en ressources humaines. Il travaille dans ce domaine-là. Puis quand il parle de son domaine, je le trouve toujours excessivement pertinent. Mais c'est sûr que si demain, Kevin me dit qu'il faut qu'il m'opère à cœur ouvert, comme tout le monde, parce que malheureusement, c'est un marqueur, ça se peut que je fasse comme « Répète-moi ton prénom, docteur ». Kevin, OK.
Docteur Kevin.
Tu sais, c'est malheureux, mais c'est quand même vrai.
Il y a un sociologue qui a écrit un livre sur les Kevin, justement, qui dit, le titre de son livre, c'est « Les médecins, les Kevin ne deviennent pas médecins ».
Bon, tu sais.
Et il disait qu'il a demandé au Collège des médecins, il y avait combien de médecins qui s'appelaient Kevin au Québec. Et, en tout cas, l'an dernier, c'était 22.
Mais ben, quand même, il y a 22.
Ben, malgré tout.
Ça se peut.
Malgré l'adversité, les préjugés.
Ça se peut. T'sais, les Kevin, là, je sais pas, ça se peut, pareil. T'sais.
Souvenez-vous qu'à une certaine époque, c'était les Gino. qui souffraient. Oui. Tu sais, dans les années 80, là, si t'étais un Gino, là, c'était pas à cause de ton prénom.
Ben,
c'est parce que clairement, tu portais une camisole avec une trop grosse chaîne.
Ben oui. Tu avais une corne d'abondance. C'était ça la chaîne là, que tu portais. C'est la petite corne d'abondance. Oui. Mais tu sais, Gino, le plus connu, ça vient tout le temps avec son nom de famille. C'est Gino Chouinard.
C'est vrai qu'on l'a
jamais les gens vont le présenter. Hey Gino, comment c'est Gino Chouinard. Il faut que ça suive avec le nom de famille parce que sinon, ça marche pas.
Tu sais, depuis quelques années, c'est les Karen qui font pitié. Là.
Oui, là, on s'est attaqué beaucoup.
C'est pas Karen, parce que tu t'appelles Karen que ça veut dire que tu cries par la tête d'absolument tout le monde. Mais c'est rendu que t'as ce pendant féminin-là qui a rien à voir avec l'image autour des Kevin. Mais il y a des Karen actuellement qui trouvent pas ça drôle de s'appeler Karen.
Non, puis il y a des choses qui sont un peu difficiles à prévoir, des phénomènes sociaux comme ceux-là. Mais tu sais, je reviens, je veux pas tout faire tourner autour de moi, mais je m'appelle quand même Antonine.
Oui.
C'est quand t'es parent, il faut quand même que tu réfléchisses aux répercussions que le nom que tu trouvais cute, toi, puis don original, ben notamment quand tu vas être pogné comme personne pour épeler ton nom à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, pour expliquer ton nom à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, pour faire face à certains préjugés. Tu sais, notamment
ça fait
les
quand
amis...
même 15 ans qu'il n'y a pas d'Antonine qui ont été nommés.
Non, mais c'est rare. J'en rencontre une fois par lune de framboise, de fraise en mercure rétrograde, là, des Antonines.
Puis quand part Antonine Maillet, puis toi, j'en connaissais pas. Là.
Ben, j'en ai une qui m'écrit souvent sur ma page Facebook, une autre Antonine, je la salue. Mais ça demeure assez rare. Mais tout ça pour dire qu'il y a une répercussion. Mes amis aussi qui sont issus des communautés culturelles, qui sont issus de l'immigration et qui sont des fois devant le choix de choisir un nom à consonance québécoise ou prendre un nom de leur culture qui soit va évoquer certains préjugés, on le sait qu'il y a du profilage à l'embauche aussi, ou même qui vont être vraiment durs à appeler. Pas mal d'anciens collègues de mon ancienne vie au privé, des collègues asiatiques qui prenaient des noms francophones à leur arrivée parce que ça devenait ingérable, là, des noms que nous, on n'arrive pas à prononcer puis que tu te fais tout le temps déformer.
C'est plate parce que tu laisses une frange d'histoire familiale derrière quand tu fais ce choix-là. Mais d'un autre côté, tu veux mettre toutes les chances du côté de ton enfant, j'imagine.
Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, à l'école de mes enfants, on est dans le secteur de Limoilou, puis on est dans un secteur qui est très multiethnique, puis il y a des espoirs, il y a des cristals, il y a de ce genre de prénoms-là, effectivement, que nous, dans notre culture, on est moins habitués d'entendre, mais ça fait partie de leur culture à eux aussi. Puis le nombre de prénoms que nous, dans notre histoire culturelle, on est allé chercher ailleurs aussi. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'éventuellement, il y aura d'autres espoirs ou cristals, puis c'est parce qu'on aura été inspiré justement de l'arrivée de ces gens-là. T'sais.
D'ailleurs, à chaque année, le Journal de Québec fait un palmarès des noms les plus farfelus. Et dans les dernières années, je me suis dit là, il y a pas mal de noms là-dedans qui sont des noms de communautés culturelles, tu sais, des gens qui s'appellent Jésus, Cristal, qui peut-être ont une résonance un peu drôle pour nous, mais qui sont en fait culturellement différents parce que pour eux, c'est pas nécessairement... Fait que je me suis dit, je pense qu'on est dans les dernières années où on va rire comme ça, là, ouvertement de ces noms-là parce que...
On peut plus, là.
C'est ça, là.
Mais non, c'est ça.
C'est d'autres on rit pas des autres cultures nécessairement, mais tout ça pour dire que... Quand tu choisis le nom de ton enfant, c'est pas banal. Et ça affecte même la personnalité de la personne. Moi, encore une fois, je veux dire, le fait de devoir expliquer mon nom à chaque fois que je rencontre quelqu'un, vous comprenez que ça m'oblige à me dégêner. Moi, j'étais gênée dans la vie. J'ai pas le choix, là.
Ben oui.
Ah, c'est le prénom puis le nom de famille, là.
Ah oui, oui, parce que là, on s'est même pas rendu au nom de famille. Donc, ça forge le caractère, mais ça a des conséquences, pensez-y. Puis aussi, dernier point, c'est penser à comment ça sonne avec le nom de famille, s'il vous plaît.
Oui, ça aussi, c'est important.
T'sais, des fois, il y a des drôles de mix, là. Je sais pas si vous en connaissez, mais des drôles de rimes où la dernière syllabe du prénom puis la première syllabe du nom de famille, ça donne un autre mot puis c'est comique.
Ma mère se prénomme Réjeanne. Quand elle était jeune, elle n'aimait pas son prénom. Elle aurait voulu s'appeler Pierrette.
OK.
Mais son nom de famille, c'est Ouellette.
Ouais. Non.
Dieu merci qu'on laisse ça pas son nom entre les mains d'un enfant.
Ben, tu sais, moi, un prénom que je trouve vraiment beau dans la vie, c'est Paul.
Oh, j'aime ça.
J'aurais adoré ça, appeler un de mes deux fils.
Paul Meilleur?
Non, non!
Le retour de Boulevard.
15h32 minutes à Boulevard 102.1. Merci d'avoir syntonisé votre radio parlée ici à Québec. Plusieurs réactions par texto concernant notre discussion sur les prénoms. Tout ça partait du fait, en fait, que malheureusement, le prénom Kevin est de moins en moins populaire. Mais plusieurs personnes, c'est ça qui nous écrivent pour nous dire, tu sais, il y en a deux à ma job qui s'appellent comme ça. Ça fait bizarre de leur parler en maudit. Ah non, c'est les prénoms qui sont différents. Excusez-moi. Il y en a deux à ma job qui s'appellent Papa. Ça, ça fait spécial de leur parler, effectivement. Hey, Papa! C'est sûr que ça peut être... Il y a besoin d'une petite période d'adaptation quand même. Des prénoms, c'est ça qui viennent d'autres cultures, d'autres origines aussi. Effectivement, tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit... Il y a trois frères près de chez moi. Trésor, vérité et méthode. Ici, les filles trouvent ça vraiment normal. Donc, ils habitent proche de chez eux, un peu comme mes enfants aussi. C'est ça, qui ont des enfants avec des prénoms qui sont différents un peu de ce que nous, on connaît dans notre culture ici. Mais en même temps, je dis notre culture ici, ça fait partie de notre culture exact. Ici maintenant aussi, d'avoir des prénoms qui sont un peu différents. Merci de nous texter, d'interagir dans cette émission-là. Toujours au 971-1021, vous le savez, c'est votre show à vous aussi. C'est un sujet qui fait jaser beaucoup depuis ce matin. C'est une proposition de Québec solidaire qui veut s'attaquer à la crise du logement en doublant la taxe sur le gain en capital. Donc ça, c'est le profit qu'on fait en vendant un bien immobilier. Le gain en capital sur la vente... c'est actuellement à 50 %, mais ce que QS propose, en fait, ça serait que ce montant-là soit imposable à 100 %. Et là, merci à Antonine qui a pris la peine de me l'expliquer comme il faut, tantôt avant qu'on rentre en onde aussi, pour être sûr, justement, que ça soit clair. Parce qu'évidemment, il y a des braquettes d'imposition ici au Québec selon les revenus que vous faites. Si vous vendez un immeuble, je vais l'essayer, OK? Puis tu me corrigeras si je me trompe.
Je t'écoute. Okay?
Donc, vous êtes propriétaire d'un immeuble, d'un duplex, par exemple. Vous le vendez, vous faites un gain de 100 000 $ Sur ce 100 000 $-là, il y a 50 % de ce montant-là qui devient imposable, mais selon votre braquette d'imposition.
Et voilà.
Là, effectivement, à ce moment-là, il faut le calculer différemment parce que si vous gagnez déjà 100 000 $ par année, le gouvernement va calculer que là, tout à coup, vous venez de gagner 150 000 $ par année parce qu'il y a un 50 000 $ de plus dans vos revenus. Ça se peut que ça vous fasse changer de braquette ou pas, mais ce montant-là va être imposé selon la braquette d'imposition de votre revenu. Ce que Québec solidaire propose, c'est que le montant total du gain devienne imposable. Évidemment, ça change énormément la donne. On sait que nos collègues un peu plus tôt ont eu la chance de parler avec Mme Gazal justement à ce sujet-là. L'entrevue qui est disponible dans la section réécoutée du BLVD.fm. Et nous, en ce moment, on a avec nous le président de l'Association des propriétaires du Québec, M. Martin Levasseur, qui n'est plus là. T'en as un petit peu. Bon, je vais essayer de le rappeler. Ce sera pas long. Donnez-moi une petite seconde. Je lui parlais, je l'avais au téléphone il y a deux secondes. Donnez-moi un instant.
Hey, pendant ce temps-là, ouais. Je vais vous mentionner une information que Radio-Canada vient de sortir. Puis c'est un peu un secret de polichinelle, mais selon leurs sources, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, va annoncer jeudi matin qu'elle sera finalement candidate dans la circonscription de Trois-Rivières aux prochaines élections. Elle l'avait dit, Trois-Rivières, elle a grandi là-bas, ses parents sont encore là-bas, alors qu'elle, depuis 2022, elle est la députée de Saguenay en Montérégie.
Alors, reprise 2 pour M. Martin A. Messier, qui, je le rappelle, est président de l'Association des propriétaires du Québec. Monsieur Messier, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci, et vous?
Ça va bien. Et avec la nouvelle d'aujourd'hui, en fait, avec la proposition de Québec solidaire, comment vous vous positionnez, vous, au niveau de l'Association des propriétaires du Québec?
Ben, écoutez, on trouve triste que ce type de débat-là ait lieu, en fait, parce que le simple fait d'avoir le débat, même si ça n'arrivera, on ne l'espère pas, ça lance un mauvais message aux propriétaires d'immeubles locatifs et aux investisseurs. Vous savez, on essaie de convaincre des gens d'investir au Québec dans le logement locatif résidentiel, et le fait qu'on dépeigne une situation très difficile pour les propriétaires en menaçant de toutes sortes de mesures les gens qui veulent investir dans le locatif résidentiel. Ben, ça a l'effet inverse, en fait. Ce qu'on veut faire, d'éviter la restriction du nombre de logements, ce que certains appellent la crise du logement. On veut avoir beaucoup de gens qui investissent. Et là, ben, on leur dit finalement, si vous choisissez d'investir au Québec dans ce véhicule-là, qui est l'investissement locatif résidentiel, ben, vous allez être désavantagé par rapport à un autre type d'investissement ou le même type d'investissement, mais ailleurs au Canada ou ailleurs en Amérique du Nord, en fait. Donc, c'est un mauvais message, tout simplement.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait décourager des gens qui possèdent de l'immobilier d'avoir des logements locatifs, finalement? Est-ce qu'on se dit, ben là, tant qu'à y être, si on m'étouffe comme ça, ben je vais investir autrement mon argent? Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait même, au contraire, faire baisser le nombre de logements disponibles?
Oui, tout à fait. Le risque est vraiment bien réel. Les propriétaires qui perçoivent que c'est devenu trop compliqué d'être propriétaire de logements, ben ils veulent se départir de leur actif, surtout si on leur dit, ben votre valeur va baisser parce que quand vous allez tenter de vendre, ben il risque d'y avoir une fluctuation dans l'évaluation là, du gain que vous allez devoir payer. Donc, l'impôt, vous allez devoir payer sur le gain. Donc, il y a vraiment une situation qui est problématique. Et puis, en fait, ce matin, il y avait, dans la conférence de presse, il y avait d'autres éléments additionnels, je dirais, qui viendraient baliser là, les droits et les obligations des propriétaires. Donc, c'est justement le message. Au Québec, on a déjà un système très restrictif. On a un contrôle des loyers, on a des dommages punitifs pour les gens qui sont de mauvaise foi, qui font du harcèlement. Et on a déjà un système qui est en place, qui est très contraignant pour les propriétaires. Maintenant, quand on parle de multiplier par 10 les amendes, d'augmenter l'impôt payable lors de la vente d'un immeuble, moi, je pense qu'on fait vraiment l'inverse. On fait fausse piste. En fait, on décourage les gens d'investir en immobilier locatif parce qu'on se dit, je vais être un peu comme au Moyen-Âge où je vais être la sorcière qui est pourchassée par tout le monde. Donc, disons-le, pour certains propriétaires, le fait d'être mal vu parce qu'il est propriétaire, c'est vraiment un élément qui fait en sorte qu'il se dit, ben moi, je vais investir à la bourse ou je vais investir en immobilier, mais ailleurs qu'au Québec.
Avec cette proposition-là, on se mettra pas la tête dans le sable, M. Messier, qu'on diabolise un peu les propriétaires d'immeubles. Mais là, je pense plus aux propriétaires qui ont plusieurs immeubles, qui ont plusieurs portes. Est-ce qu'une nouvelle comme celle-là aujourd'hui pourrait créer un espèce d'effet de, je prends l'exemple, un couple qui est propriétaire d'un plex, d'un triplex, sur le bord de la retraite, leur fonds de pension, c'est ça. C'est le bloc, OK? Puis là, eux autres voient cette nouvelle-là sortir aujourd'hui puis disent « Hey, on n'était pas prêt à vendre encore avant 4-5 ans, mais là, on vend là. On prend pas de chance. » Ce qu'on veut, c'est stopper la spéculation, mais est-ce qu'on pourrait créer un effet spéculatif davantage dans les prochaines semaines, prochains mois avec une nouvelle comme celle-là qui est proposée? Puis ça rentre par texto, honnêtement, avec vous, là, tu sais, c'est Québec solidaire, ils seront jamais au pouvoir, mais pas besoin d'être au pouvoir nécessairement pour proposer des idées non plus puis les proposer à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'une proposition comme celle-là pourrait avoir comme effet d'amener des gens qui sont pas propriétaires de dizaines puis de centaines de portes de se départir plus rapidement de leurs blocs et peut-être que ces portes-là se retrouveraient entre les mains de propriétaires de plusieurs portes, justement?
Bien, c'est bien certain, vous savez, pour un propriétaire qui entend ce type d'éléments-là sur la place publique, bien, ça fait réfléchir et ça peut définitivement faire pencher vers la vente de l'actif ou vers la décision d'investir dans d'autres choses, alors qu'on les veut, ces gens-là, comme investisseurs immobiliers, on veut ce type de propriétaire-là. Donc, je crois vraiment que c'est un débat qui est nuisible et qui va, en fait, à l'inverse des intentions là, qui sont proposées voulant stimuler l'investissement, réduire la crise du logement. Là, je pense qu'on fait fausse route, définitivement.
En même temps, c'est sûr, on regarde le prix des logements en ce moment, le manque de logements aussi. Bon, il y a le 1er juillet qui arrive cette semaine. On sait qu'on va avoir plein d'histoires super tristes aussi. Je regardais le prix moyen des logements à Montréal, parce que ça nous frappe particulièrement. À Québec aussi, ça a augmenté, mais à Montréal, entre 2019 et 2025, le prix a bondi, le prix moyen a bondi de 70 %. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on ne stoppe pas la spéculation et les profits à tout vent et les flips et tout ce qui fait en sorte que les logements ne sont pas disponibles et qui coûtent une fortune, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce que votre association a des propositions, des suggestions à apporter qui ne seraient pas là, de taxer encore plus les propriétaires?
Mais en fait, ce qu'on voit, là, nos coûts de rénovation, de construction ont tout simplement explosé. Et évidemment, ça a un effet direct là, sur le prix du logement. Si on parle d'immeubles neufs, le prix des terrains a explosé également. Tous les frais connexes qui sont reliés au développement immobilier ont tous explosé. Donc évidemment, ça a un effet de percolation important. Là, ça impacte le prix des loyers. Donc c'est un phénomène global. Je dirais que l'hyperinflation qu'on a vécue suite à la COVID, l'inflation qu'on connaît maintenant, bon, pour toutes sortes de raisons, tout ça a un impact parce que c'est relié. On peut pas faire de l'immobilier un vase clos. Là, quand on a un rénovateur qui nous dit, ben moi, je dois hausser mes salaires parce que les gens ont besoin de plus d'argent pour arriver, qui nous dit, ben je dois hausser mes prix parce que les matériaux augmentent, ben, c'est difficile d'argumenter parce que tout ça est vrai. Donc, on ne peut pas prendre l'immobilier dans un vase clos puis dire, là, c'est un logement, donc il ne faudrait pas que le prix monte. Malheureusement, on est dans cette roue-là qui vraiment est accélérée depuis quelques années de l'inflation. Et c'est difficile à contrer. Je pense que globalement, c'est difficile, puis on le voit, là, nos gouvernements tentent de le faire, mais de contrôler tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est au final comment on peut aider le citoyen. Les gens qui sont plus démunis, qui sont pas en mesure de suivre cette vague-là inflationniste qui est globale, là, qui touche pas juste le logement, il va falloir faire des choix de société, puis voir comment on peut les assister au même titre qu'on doit les assister non seulement pour se loger, mais pour se nourrir également.
Pensez-vous, est-ce que vous auriez été davantage d'accord si cette mesure-là proposée aujourd'hui, parce que ça ouvre un débat, là, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement appliqué, là, Québec solidaire ne sera peut-être pas au pouvoir l'automne prochain, mais c'est sûr que ça ouvre une discussion. Est-ce que vous auriez été plus ouvert si on s'attaquait, on visait les plus grands propriétaires? Parce que quand on regarde un petit couple pour qui c'est son fonds de retraite, c'est sûr que c'est le cas qu'on met beaucoup de l'avant quand on est contre la mesure. Mais est-ce qu'on aurait pu viser les plus grands propriétaires, ceux pour qui c'est une vraie business, là? Tu sais, que c'est pas juste un petit fonds de retraite là, d'un petit couple là, qui a investi là-dedans, là.
Mais en fait, si on prend l'exemple des plus grands propriétaires, quand ils disposent de capitaux, là, comme tout investisseur, ils ont le choix là, d'investir dans le véhicule puis à l'endroit qu'ils le souhaitent. Donc, si on leur dit au Québec, c'est compliqué, ben, ils vont investir leurs fonds ailleurs, au Canada, en Amérique du Nord. Là, c'est mobile, là, on n'est plus captif. Et donc, c'est extrêmement dangereux comme discussion pour ces gens-là aussi. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir là, avant d'amorcer ce débat-là.
Puis, tu sais, effectivement, la crainte aussi de s'attaquer aux plus gros joueurs puis de les faire fuir, effectivement, je pense pas que à long terme, c'est une solution nécessairement intéressante pour notre économie. Moi, j'ai envie de vous entendre, monsieur Messier. Je vous rappelle, on parle avec Martin Messier, qui est président de l'Association des propriétaires du Québec, concernant cette proposition-là de Québec solidaire de s'attaquer à la crise du logement en doublant la taxe sur le gain en capital, donc le profit qu'on fait en vendant un bien immobilier qui est à 50 %, donc la faire passer à 100 % à ce moment-là du gain total. Le visage des propriétaires doit changer dans les dernières années avec tout ce que vous nous avez mentionné. Tu sais, moi, je me souviens d'une époque. Monsieur Messier, j'ai grandi dans Limoilou, j'habite encore Limoilou. À Limoilou, ben quand on passait d'un appartement, on s'achetait un condo, puis à un moment donné, ben ce qu'on visait, c'était d'essayer d'avoir un duplex puis un triplex comme jeune couple. Pourquoi? Mais parce que les revenus nous aidaient à payer le bien immobilier. Et là, on investissait, puis éventuellement, ben soit on décidait de vendre ça puis de s'en aller dans une unifamiliale, ou sinon, ben on réinvestissait dans un autre duplex ou un autre triplex. Avec l'inflation actuelle, puis avec des nouvelles comme celle-là, vous devez voir le visage des propriétaires changer, puis ça doit être de plus en plus de gros joueurs et de moins en moins de on les appelle comme ça, mais c'est pas péjoratif, de petits propriétaires, de couples ou d'amis qui s'achètent un ou deux immeubles à peine.
On voit encore les petits propriétaires. On a encore un marché au Québec où, contrairement à l'Ontario, là, on a vraiment beaucoup de logements qui sont détenus par de petits propriétaires. Cependant, là, vous avez tout à fait raison, c'est que dans les nouvelles constructions, à la fois les normes de densification qui ont été adoptées par les villes où, quand on construit maintenant, on nous demande de construire sur plusieurs étages là, pour qu'il y ait une densité puis une rentabilité pour la ville. Et donc ça, évidemment, quelqu'un qui voulait s'acheter un triplex dans ces projets-là sont exclus. Donc, quand on voit des logements construits en grand nombre, le nombre de grands immeubles qui livrent beaucoup de logements est évidemment détenu là, par des beaucoup plus grandes sociétés.
Puis, est-ce que, parce que ça, c'est un texto qui est rentré, puis je le trouve intéressant, là, j'ai deux chums qui achètent et investissent un peu, revendent et font des gros profits. Est-ce que c'est plus à ça qu'il faut s'attaquer, d'après vous, M. Messier, les fameux flips? Parce que, en s'attaquant aux flips, parce que encore là, c'est quelque chose qu'on vit, nous, notre génération, puis les plus jeunes, là, d'avoir des gros joueurs qui achètent, puis là, je parle pas juste de blocs, des maisons, qui les rénovent, puis qui les revendent à 100, 150, 200 000 de plus, ça fait en sorte que le marché est davantage saturé. Nous autres, on se retrouve comme premier acheteur à être pris à la gorge, puis à être obligé d'emprunter plus qu'un demi-million aujourd'hui, en 2026, pour se procurer notre première maison. Moi, je trouve ça épouvantable, parce que je me souviens d'avoir la discussion avec nos parents, puis de dire, bon, c'est bien, vous autres, vous savez pas pas c'est quoi payer une hypothèque. Vous avez payé votre maison 82 000, mais nos enfants vont nous dire la même affaire. Enfin, t'as payé ta maison 300 000, 350 000. C'est un pet. Nous autres, on doit 750, 800. Est-ce que si on s'attaquait plutôt à ceux qui achètent des blocs, qui en font des flips, puis qui revendent au bout d'un certain temps, est-ce que ça serait peut-être plus une solution à ce moment-là qui pourrait être envisageable, puis peut-être plus facile à contrôler pour s'assurer qu'on continue à avoir de l'investissement quand même ici au Québec, puis qu'on ne fait pas fuir les gros joueurs non plus à l'extérieur de la province?
Mais je pense qu'en fait, vous avez raison, il doit y avoir une réflexion qui est effectuée sur ce qui stimule nos gens à vendre leurs immeubles, qui dans certains cas va dénuer une spéculation. Mais en même temps, on regarde certaines transactions, puis il faut s'expliquer, il y a des gens qui achètent parfois des immeubles où c'est pratiquement déficitaire, là, si je calcule mes frais, mon hypothèque, mes taxes et versus les revenus de loyer, et les transactions se font quand même. Donc ça me rend toujours perplexe, ce type de transaction-là. Mais je pense que de vérifier là, ce qui motive les gens. Puis on est dans une valse mondiale où les scénarios à la hausse sur le prix de l'immobilier, c'est un peu une donnée mondiale. Je discutais avec un investisseur il y a plusieurs années de ça, puis il me disait, bien, au Québec, vous avez un prix de l'immobilier qui est beaucoup plus bas. Puis globalement, la mondialisation des marchés va faire en sorte que ça va vous rattraper éventuellement. Et on est peut-être un peu dans ça, mais oui, il y a une réflexion qui doit être effectuée, mais on doit éviter là, de lancer un signal qui fait en sorte de désintéresser les investisseurs. Est-ce qu'on doit se questionner sur le prix que les gens sont prêts à payer, sur le mode de financement, sur des incitatifs qui pourraient aider les gens à acquérir pour demeurer dans leurs immeubles? Ça, c'est peut-être des mesures qui sont plus constructives.
Très intéressant, Monsieur Messier. Je le rappelle à nos auditeurs et auditrices qui viennent de se joindre à nous, président de l'Association des propriétaires du Québec, l'APQ, Martin A. Messier, qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Une très bonne fin de journée à vous. Effectivement, tu sais, en étant à Québec solidaire, moi, ce matin, il me semble que je serais allé complètement de l'autre bord. Dans le sens où est-ce que tu es un jeune couple dans la ville de Québec, au Québec, tu veux t'acheter un duplex. Parfait. On a une crise du logement en ce moment. OK, regarde bien qu'est-ce qu'on va faire. Nous, si tu acceptes de prendre ce loyer-là et d'en faire un loyer abordable, ce qu'on te promet, c'est que le gouvernement va payer ta taxe de bienvenue puis tu vas avoir un congé de taxe municipale pendant un an.
Ouais.
C'est ça le coup de main qu'on va te donner. Fait qu'on y va complètement dans l'autre sens. Fait que là, tu convaincs un jeune couple de dire, regarde, on va s'acheter quand même un immeuble, on va quand même avoir un revenu qui permettrait de calculer, mettons, la moitié de l'hypothèque mensuelle. Là. Mettons que parce qu'on fait ça aujourd'hui en 2026, on se magasine des paiements mensuels. Ton hypothèque par mois va te coûter 2000$, parfait. Tu as le droit d'avoir un loyer, mais à maximum 1000$, qui va payer la moitié de l'hypothèque par mois. Puis à partir de là, ben nous autres, voici ce qu'on te donne comme bénéfice. Ce qui fait en sorte qu'on continuerait d'avoir des petits joueurs, je le redis encore de cette façon-là, mais sans être péjoratif.
Monter encore les taxes. Là.
Ben oui,
les
aussi.
Taxes puis les coûts en général. Puis tu le soulignais, là, c'est vrai que Québec solidaire ne sera pas au gouvernement à l'automne. Ça ne fonctionnera pas de même. Par contre, ce que ça permet, c'est d'avoir des discussions puis peut-être trouver des solutions. Puis tu parlais des coûts de loyer. C'est des chiffres qui ont été sortis par l'Observatoire du Grand Montréal qui touchent toutes les régions métropolitaines en Amérique du Nord. Sur la disponibilité des logements. En 42 puis en 43e position en Amérique du Nord, t'as Montréal puis t'as Québec. Parce qu'on parle de taux d'occupation qui sont corrects à Montréal, là, c'est quelque part à 3,1 %, ce qui est considéré comme étant le seuil d'équilibre. Ça veut dire que t'as suffisamment de logements pour que personne se retrouve à la rue. Le FOC, il n'est pas dans la disponibilité, il est dans le coût. Et dans le texte, on nous dit qu'un logement de deux chambres, donc un 4,5, tu sais, 4,5, là, que tu sois un couple ou une famille avec un enfant, deux enfants, c'est à peu près ça le minimum que tu as besoin
minimum,
comme espace.
Ouais. Parce que 4,5, tes deux enfants dorment dans la même chambre,
ouais.
Là, si tu as deux enfants.
C'est
1920$ par
incroyable.
Mois.
C'est incroyable.
Parce qu'actuellement, c'est la mairesse de Montréal qui le disait en point de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui, elle dit c'est pas une crise du logement, c'est une crise de l'abordabilité. Puis dans la région de Québec, c'est la même foutue affaire, parce que tu as parlé des flips tantôt. Tu sais, ceux qui se pognent un petit bloc pas trop cher, qui font ce qu'on a appelé pendant un bon bout de temps des rénovictions. Ils vont pimper leur bloc puis vont avoir le loisir de monter le loyer.
Oui, puis ils vont avoir des locataires peut-être plus à leur goût aussi. Parce que, tu sais, il y a ça aussi, il y a des propriétaires qui veulent un type de locataire bien particulier. Mais tu sais, on dit que ce n'est pas une crise du logement. il y a assez de logements disponibles. Je voyais un article de la presse la semaine passée, 25 000 logements vides.
Oui.
À Montréal.
Parce qu'on les charge tellement cher,
c'est trop cher
qu'on est capable, avec les coûts de loyer des autres, de vivre avec le fait que des logements soient vides puis qu'on n'ait pas de revenus avec ceux-là.
Et il y en a aussi qui ne sont pas habitables en ce moment pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il y a des propriétaires qui n'ont plus les moyens de rénover leur logement.
Aussi, puis en même temps, 25 000, c'est beaucoup, mais au prorata de la population, est-ce qu'on l'a, cette information-là? T'sais, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est 25 000 loyers de trop qui sont inhabités
si
en ce moment?
Si c'était disponible demain matin et qu'on envoyait des gens puis qu'il n'y avait pas d'enjeu de prix, là, ça réglerait quand même une partie de la crise du logement. Mais je pense qu'il faut continuer de se creuser le coco pour trouver des solutions moins mur à mur. Parce que, puis il y a vraiment un débat en ce moment sur est-ce que la propriété et les logements, ça doit être ça, le principal véhicule pour construire notre patrimoine puis pour investir. Tu sais, moi, c'est sûr, je regarde la génération de mes parents. Bon, ma mère, elle a acheté un triplex. Là, c'était 30 000 $ le condo là, à l'époque.
Ouais,
mais
c'est
les taux d'intérêt étaient à 15 % aussi. Oui, là, c'est une autre game. Mais c'est sûr que moi, je regarde ma mère. Pour elle, ça a été un vecteur d'avancement social. Là. Elle n'est pas devenue riche puis véreuse tout à coup, mais c'était ça. Ça, je pense qu'il faut faire attention quand même de donner la chance aux gens, à un moment donné, de se construire un patrimoine. Mais les flips... De transformer plein de logements en Airbnb, par exemple. Ouais. Que ce soit la course à ce qui est le plus payant, moi, je pense que ça prend des incitatifs pour qu'on ait des bons propriétaires.
Ouais, pis,
faut encourager ça.
Puis éviter de ghettoiser aussi les quartiers. Parce que, tu sais, à un moment donné, si on a tous les appartements à loyer modique au même endroit, ça non plus, c'est pas une bonne chose. Mm. Ça, c'est important de faire ça aussi, de s'assurer que... Pis,
qu'il y a une mixité.
Qu'il y a une mixité, puis ces gens-là ne disparaissent pas. Puis ça, moi, je l'ai vécu quand j'étais petit. Quand on a défait le toit du Maille-Saint-Roch,
oh oui.
Ces gens-là ont migré puis ont déménagé vers le bas de Limoilou.
Viens-tu du quartier Saint-Roch?
Moi, je viens de Limoilou.
OK, moi, je viens de Saint-Roch. Je suis né là. Je me rappelle du Maille.
Le Maille-Saint-Roch. Puis moi, je me souviens, le Maille-Saint-Roch, après 5 heures, j'avais pas le droit d'aller jouer là. Non. Il n'était pas question que je rentre dans le Maille. C'était non. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé quand le toit du Maille s'est défait? Les gens qui avaient besoin du Maille-Saint-Roch ont migré vers le bas de Limoilou. Ouais. Puis après ça, il y a eu une deuxième migration quand M. Lallier est arrivé avec le projet du nouveau Saint-Roch. Il y a eu une grande migration vraiment importante du côté de Vanier par la suite. Ces gens-là ne disparaissent pas parce que vous rénovez un appartement puis vous en faites un beau Airbnb puis votre loyer est rendu à 1 800 $. Ces gens-là ont besoin d'avoir un toit sur la tête aussi, puis de s'attaquer tout le temps aux riches, ce qui est une mire, là, une cible pour Québec solidaire n'est peut-être pas la meilleure solution.
Ben, c'est
alors que
leur définition de riche aussi, je la trouve un petit peu trop inclusive.
Ben, c'est parce que les gens, comme
c'est
on
quoi,
disait tantôt, ben, l'exemple qu'on donnait du couple qui a investi toute sa vie dans un duplex ou un triplex, puis il a l'objectif de le vendre, puis de faire un profit de 5, 6, 700 000 $ pour se dire, regarde, on se casse pas la tête, c'est réglé,
c'est
après
ma retraite.
Ça. On va pouvoir aller en maison de retraite, on va pouvoir voyager, faire le tour du monde comme on a toujours rêvé.
C'est pas pareil que quelqu'un qui fait 25 flips, là.
Ben non, c'est ça. Puis ça, c'est rentré par texto aussi. Ouais. Les gens semblent oublier à quel point c'est une deuxième job à être propriétaire aussi, parce que tu peux te faire
c'est
appeler...
C'est pas comme si t'avais une PME, là.
Ben non, tu peux te faire appeler le samedi à midi, là, pour te faire dire que l'évier de la salle de bain vient de casser, puis là, l'eau coule partout, tout bord, tout côté, puis où... tomber face à face avec un loyer qui a été complètement démoli parce que tu viens d'annoncer justement à ton locataire
que... C'est pas juste beau à tous les jours.
Ça... C'est pas tout le temps simple, là, c'est une job. Là.
Je dois dire, dans les textos, c'est assez varié les opinions. Puis il y a quand même pas mal de gens qui pleurent pas sur le sort des propriétaires aussi. Là. Il y a une bonne partie des messages qui rentrent qui sont d'accord avec la proposition de Québec solidaire et qui disent que c'est une question d'équité. Parce que quand on a une entreprise, ou bien nous, là, c'est nos revenus au complet généralement sont imposables. Mais on a des déductions aussi.
Oui,
il y a des choses qui sont déduites. Donc, je pense que le portrait est plus nuancé que certaines personnes peuvent le croire.
On est peut-être allé trop fort tout de suite alors qu'on aurait pu nuancer cette proposition-là.
Mais ils savent bien, les gens, qu'on finit toujours par nuancer, qu'on apporte toujours les deux côtés de la médaille.
Il faut. C'est notre travail. Hey, un petit tour dans la circulation parce qu'effectivement, on m'a fait remarquer que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas fait déjà.
Il y a
là.
Beaucoup, beaucoup de problèmes. Merci au collègue Mathias Turcotte qui me donne cette information-là. Dans le secteur de Beauport, il y a eu une collision entre un cycliste et un automobiliste. C'est à l'intersection de l'avenue des Sablonnières et de la rue Louis-Philippe-Roy. Les deux rues qui sont actuellement fermées à la circulation dans le secteur. Le cycliste qui a été transporté par ambulance. On parle de blessures graves sans donner plus de détails. Tout ça s'est déroulé au tournant de 13 heures. C'est très compliqué dans la circulation au moment où on se parle, particulièrement dans le secteur de l'autoroute 40 en direction est. C'est un accident qui a eu lieu un petit peu plus tôt, alors qu'au moment où on se parle, c'est deux voies qui sont bloquées, celle du centre et celle de droite, entre la route Jean Gauvin et l'avenue Legendre. Les services d'urgence qui sont sur place, ça fait une quarantaine de minutes déjà que ça dure et c'est au rouge très, très, très foncé dans ce secteur-là. On a l'accès au pont qui est un petit peu lent. On a Capitale en direction est qui est ralenti à la hauteur de Robert Bourassa. Ça se résorbe, somme toute, assez rapidement. Alors qu'en direction ouest, c'est vraiment dans le secteur entre Beau-Royal, en fait, puis le coin de Henri Bourassa. Puis je vous dirais même Laurentienne, où ça va être très, très lent. Sur la rive sud, le secteur des travaux sur la 20, entre autres, en direction ouest, là, bien au ralenti dans ce coin-là. Alors qu'en direction est, c'est vraiment quand vous allez sortir là, dans le secteur de l'avenue des Églises, où ce sera beaucoup plus lent.
Si vous voyez quoi que ce soit d'autre et que vous le pouvez, 971-1021.
Le retour